Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 4. La première semaine du quatrième mois marquait une pause dans la formation. Pendant 5 jours, chaque élève allait, en immersion, rejoindre une équipe pour regarder un petit peu comment cela se passait. Pour Loon, évidemment, il fallait toujours, tous les soirs, continuer à travailler intensément sa citoyenneté dans les villes virtuelles qui l'attendaient dans 3 mois. Pourtant, lui considéra plus ça comme une pause, effectivement, que ses collègues, qui se retrouvaient pour la première fois sur le terrain et qui revenaient presque épuisés de tout ce qu'ils avaient vu pendant la journée. Pour Loon, c'est un peu comme si il retrouvait l'ambiance d'avant Los Angeles, quand il était flic. Les 4 premiers jours se passèrent au sein de la cellule 214, dirigée par un certain Sean Elwassan. Pas grand-chose à en dire. Les 4 premiers, alors que ça aurait dû être 5. Seulement, Alexia Dovodovitch s'était rapprochée de Sean pour que Loon puisse passer une journée avec la cellule Mérès. Depuis le temps qu'Alexia leur en parlait, les membres de l'équipe, Yann Mérès en tête, avaient envie de le connaître. Le fameux Yann avait l'air plutôt sympa. Petit, un peu sec, pas aussi impressionnant que sa notoriété interne aurait pu le laisser penser. Seban, Loon le connaissait déjà, à cause des fameux concours autour du chat. Il fit connaissance de Nathalie Mélonet et de Carmen Oleros. Carmen était la plus jeune. Enfermée dans une salle, visiblement, elle communiquait peu avec les autres. Il n'osa pas poser de questions au début. Son esprit de flic affûté lui fit tout de suite découvrir 2 choses. D'abord, tout le monde s'appelait par son prénom, sauf le chef. Alexia, Seban, Nathalie, Carmen, mais lui, c'était Mérès. Peut-être une marque de respect. Et puis, Carmen, même si elle était plus jeune, à l'écart, enfermée dans sa cage de verre, semblait réellement faire partie de la famille, au même titre que les autres. Famille. C'est effectivement l'ambiance qu'il avait sentie dans cette équipe, beaucoup plus qu'au sein de la cellule 214 qu'il avait pourtant fréquentée pendant 4 jours. Contrairement à ce qu'on leur avait laissé entendre, les équipes n'étaient certes pas spécialisées par ville virtuelle, mais néanmoins, en fonction des crimes qu'ils suivaient, et surtout des criminels, certaines villes se trouvaient plus ou moins associées à certaines équipes. C'est ainsi qu'Ubriel était très régulièrement visité par l'équipe de Mérès. Comme on lui avait expliqué, une ville où les règles sont beaucoup plus strictes attire d'un côté des criminels qui pensent que la loi y est peut-être un peu plus allégée, qu'on y est moins surveillé, puisque les choses sont plus carrées, et au contraire, quand il s'y passe quelque chose, c'est généralement qu'on a affaire à une pointure. Or, ça tombe bien, Mérès, c'est l'équipe qui s'occupe des pointures. Et le hasard faisait bien les choses, ce jour-là il y en avait un, et il allait être fait prisonnier dans la centrifugeuse. Une autre bizarrerie qui avait frappé Loon. Quelque chose qui ressemblait à un énorme ordinateur placé au milieu d'eux, qui faisait un léger bruit. Pourquoi mettre ça ici, alors qu'il y avait des data centers planqués un peu partout dans les sous-sols? On lui expliqua. Ce qu'il avait sous les yeux coûtait tellement cher qu'on le laissait à peine s'en approcher. La centrifugeuse, c'était leur moyen à eux de recréer artificiellement un bout de quartier d'une ville virtuelle. Un piège pour y attirer le contrevenant sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça expliquait aussi les boutons rouges que chacun avait à portée de la main. On lui expliqua. C'était un peu trop technique pour lui. Les disques durs optiques qui pouvaient être piratés. L'important, c'était de faire entrer la cible dans la centrifugeuse, puis ensuite de couper le courant. Les disques durs de la centrifugeuse avaient été réalisés sur mesure, pour Mérès. Une sombre histoire d'anomalie technique. En quelques mots, pour prendre de vitesse tout virus informatique qui pourrait réagir et effacer les données, on créait une sorte d'interférence avec le laser à l'intérieur du disque optique. Il pouvait continuer à écrire, mais en réalité la fréquence était légèrement différente, il n'écrivait plus rien, et surtout il n'effaçait plus rien. Dès que l'un des membres de l'équipe appuyait sur le bouton, l'onde était envoyée vers les disques. Et si jamais la cible à l'intérieur de la centrifugeuse se rendait compte qu'elle était dans un piège et envoyait une information pour supprimer complètement son profil, si l'un des membres de l'équipe avait été plus rapide et avait appuyé sur le bouton, les données étaient tout de même sauvegardées. Ce jour-là, Loon assista ainsi à l'arrestation, si l'on peut dire, d'un backlone. On laissa à Carmen le soin de lui expliquer, après l'avoir informé de la raison pour laquelle c'est elle qui avait cet honneur. En fait, c'était une criminelle. Elle était arrivée il y a quelques années. Elle avait pris 10 ans pour cyberpiratage. Elle avait accepté d'être transférée à l'IAMAS pour offrir ses services en échange d'une réduction de peine de 10 à 7 ans. Depuis, comme Mérès le dit lui-même en riant, pour bonne conduite, Sa peine de 7 ans s'était commuée en une peine à perpète, et elle semblait en être ravie. Tu verras, en deuxième partie de formation, on te montrera les différents dangers qui peuvent attaquer les habitants. Le Baclone, c'est directement dans le top 5 qu'il s'est inscrit quand il est apparu il y a quelques mois. Pour te résumer la chose, un type a trouvé une faille dans un système de sauvegarde. Tous les univers sont régulièrement sauvegardés, y compris les Actones et tous les droits qui leur sont attachés. Sachant que chaque utilisateur est invité lui-même régulièrement à faire une sauvegarde de son avatar et de ce qui lui est attaché. La faille permet à 2 Idons d'être présents en même temps dans la même ville virtuelle. Comme un clone. Ce clone étant moins surveillé, puisque l'original est lui-même en train de faire des choses. Après, l'autre faille, c'est la gestion des droits. Le petit malin a acheté sur le NetPuge, d'un côté, de vieilles bases de données de sauvegarde de profil, et de l'autre, de vieilles bases de données de mot de passe. Et il a croisé les deux. Et grâce à cette faille, il peut récupérer une version précédente de l'Acton, qui marche avec la version précédente du mot de passe, et qui peut évoluer dans une ville virtuelle en même temps que l'original. Mais en ayant accès à son compte actuel, évidemment. En gros, c'est comme si tu clonais la carte bancaire de quelqu'un, et que tu faisais tes courses dans un magasin pendant que lui les fait dans un autre. Extrêmement difficile de repérer, puisqu'une partie des transactions sont des transactions vérifiées et valides. Ben, j'imagine que la faille a été corrigée. Oui, sauf que la faille, elle ne vient pas de la ville virtuelle, elle vient de l'Idon. Et donc, tous les croisements qu'il a pu faire, avec des anciens Idons sauvegardés, et leurs anciens mots de passe, il peut encore les utiliser. Et évidemment, il vient faire ça sur Ubriel, la raison qu'on t'a donnée tout à l'heure. Comme les contrôles sont beaucoup plus stricts, ce type d'erreur va être repéré plus difficilement, parce qu'il passe au travers des contrôles. Et donc là, vous le passez à la centrifugeuse. C'est ça. Contrairement au système habituel où il suffit de trouver la faille et de la corriger, là il va falloir attraper un par un tous les Idons qu'il a pu pirater de cette manière-là. Et on sait combien il y en a? Eh bien globalement, quand on fouille un peu sur le net purge, il a récupéré pour environ 10 millions de profils et 7 millions d'anciens mots de passe, en faisant le croisement pour trouver des gens qui venaient régulièrement sur Ubriel, qui étaient à la fois dans les deux bases, plusieurs milliers. Il est devenu grossiste, il les vend par tranche de 100 à des gens qui, ensuite, les revendent à des petits malins qui veulent s'acheter des choses gratuitement, à l'unité. Et il ne fait pas ça qu'à Ubriel, une dizaine de villes. Et puis le temps que les choses se vendent à la découpe, il en apparaît un de temps en temps, comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Aujourd'hui, on en a attrapé un. Ça en fait un de moins. Il doit en rester encore quelques milliers. Initialement, Loon s'était laissé un petit peu intimider par l'invitation dans l'antre de Mérès. Mais ça sentait le terrain. Il aimait ça, il se sentait à l'aise. Arriva alors la fin de la journée, et Mérès, assez direct, lui posa la question. « Alors, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter ?» Un regard neuf. Un 9 sur 20, c'est nul. Ici c'est l'élite, ça ne m'intéresse pas. Sauf votre respect, on ne dit pas un 9 sur 20, on dit un 9 meurette. Et pas pendant le service. Le silence qui se fit dans la salle laissait entendre, non pas les mouches, mais le fin bruit de la centrifugeuse. D'habitude, ce genre d'humour m'est plutôt réservé, mais là n'est pas la question. Avec votre longue expérience, vous n'avez pas appris que la frontière entre l'humour et l'impertinence est particulièrement fine? Si, je pense aussi avoir appris à reconnaître des gens dont l'esprit est suffisamment fin pour ne pas se tromper de géographie. Allons. Je peux bien passer l'éponge, puisque vous utilisez mon type d'humour, que mes collègues apprécient autant. Le sourire des 10 collègues en disait long sur leur capacité à apprécier cet humour. Sans vous faire insulte, je pense être votre aîné, c'est donc plutôt vous qui utilisez mon humour. Vous semblez aimer avoir le dernier mot. C'est vrai, c'est un de mes petits défauts. Cela peut être un gros défaut dans certaines circonstances. Peut-être, mais pas quand on a raison, je pense.
Baclone en boîte.
C'est un peu comme si Seban avait sauvé la vie de Loon, et Alexia se dépêcha de l'exfiltrer de la salle pendant que Mérès se concentrait sur le gibier qu'il venait d'attraper. Loon n'eut pas l'occasion de discuter avec elle. Elle retourna vite fait dans la salle. Et le soir même, ou le lendemain matin, il ne la croisa pas à la salle de sport. C'est lui qui n'y est pas allé. Trop de travail. Le compte-rendu à faire sur ses 5 jours, et puis, tous les soirs, toujours, intensément, travailler sur sa citoyenneté. Aussi, quand, en fin de matinée, le lendemain, il fut convoqué devant Andrew Semitel, il se dit qu'il avait fait une gaffe, qu'il ne fallait pas tenir tête à quelqu'un comme Mérès et qu'il y allait avoir des conséquences. Il était évidemment loin d'imaginer lesdites conséquences à court et à long terme. Alors, monsieur Émérides, il paraît qu'on tient tête à Mérès ? Oui, effectivement, je me suis peut-être un petit peu laissé emporter hier soir, j'étais fatigué, je me sentais bien dans cette équipe. Tout le monde ne parle plus que de ça. Ça a fuité, et je ne sais trop comment vous parler des implications, des conséquences. À cet instant précis, Lou entrevit avec horreur l'image qu'il s'était faite de Gaillot projeté par l'armée à l'extérieur du vaisseau pour mourir dans le vide de l'espace. Vous êtes décidément quelqu'un de particulier, monsieur Émérides. Les villes virtuelles vous offrent des facilités dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne parle évidemment pas de mes visiteurs du soir. Et voilà que, contre toutes les règles de l'IAMAS, mais évidemment nous allons le faire, Mérès demande que vous intégriez l'IAMAS au sein de son équipe. Tout de suite. Dès votre incorporation, dans un petit peu moins de 3 mois. De ce que j'ai compris, il apprécie votre humour, il apprécie votre état d'esprit, et le fait de lui tenir tête de cette manière-là ne lui était pas arrivé depuis tellement longtemps qu'il vous estime particulièrement apte à apporter quelque chose d'intéressant à son équipe. Autant vous dire que vous avez grandement intérêt à effectivement devenir citoyen des 3 villes virtuelles qu'il vous manque aujourd'hui et à être dans les meilleurs parmi les 19. Sinon, nous allons tous être très embêtés. D'un côté, tous ceux qui font la queue à sa porte depuis des années pour intégrer son équipe. De l'autre, vous, si jamais vous n'êtes que moyennement à la hauteur. Vous ne voudriez pas me laisser face à un tel choix, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Alors, retournez à vos études. Et si la chose est possible, soyez encore plus assidu, encore plus enthousiaste, encore plus efficace. Merci, monsieur le directeur. C'est peu de dire que le ciel était tombé sur la tête de Loon. Enfin, le ciel. En sortant du bureau, il venait à peine de prendre un bout de plafond. Il ne le savait pas encore. Le ciel, c'était la suite. Un enfer auquel personne n'aurait pu survivre. Tout le monde lui tournait le dos. Tout le monde lui faisait la gueule. À commencer par les 18 personnes avec qui il suivait la formation. Devenus des compétiteurs acharnés, tant il est vrai que finir dans le classement au-dessus de lui pouvait leur permettre d'ouvrir des portes en disant « Mais écoutez, regardez, je suis meilleur que lui, et lui, il va directement chez Mérès. » Si cela n'avait été que cela, à la limite, ça n'aurait pas été bien grave. Mais il avait aussi droit à l'envie et carrément à la haine de tous les gens de l'IAMAS, entre autres tous ceux qui, comme le directeur lui avait dit, faisaient la queue depuis des années pour intégrer cette équipe et qui voyaient quelqu'un qui n'était même pas encore membre avoir cette opportunité. Il était carrément mis au banc de l'IAMAS. Et forcément, ses 18 camarades suivirent le mouvement. Ils n'avaient guère le choix s'ils voulaient s'intégrer correctement à la fin de la formation. En classe, plus de travail en équipe. Ils étaient 19, quand ils faisaient des binômes, généralement ils tournaient. Brutalement, il y eut 9 binômes fixes, sans lui. Et ça allait très loin, puisque plus personne ne lui adressait la parole, à part ceux qui y étaient obligés, les professeurs, les administratifs. Une pression psychologique a hurlé. La seule personne avec qui il aurait pu en parler ouvertement, c'était le psychologue, mais il avait refusé d'y aller. Quelqu'un qui lui tendait la main, certainement. On allait le lui reprocher, cette aide qu'il proposait au court-circuit, comme il se savait appeler. Alors par reconnaissance, vis-à-vis de quelqu'un qui lui tendait la main, il refusait pour ne pas le mettre dans l'embarras. N'importe qui serait devenu dingue en moins de 2 semaines. Mais pas Loon. Pas en tout cas le nouveau Loon. Celui qui avait pris le pas sur l'autre. Le Loon froid, distant, presque insensible. Le Loon qui avait vécu 4 ans, pratiquement seul. Et les 3 premières années, avec, pour seul contact humain, 2 personnes qu'il détestait. La parenthèse Los Angeles, qui ne devait simplement que l'aider financièrement à devenir citoyen de ville virtuelle, avait en fait forgé son caractère, et ce nouvel aspect de sa personnalité devenait une brique essentielle pour son intégration à l'IAMAS. Bien sûr qu'il allait tenir le coup. Qu'est-ce que les autres croyaient ? Il avait vécu cet enfer pendant 4 ans. C'était presque en souriant qu'il arrivait à la cantine et repérait, à l'avance, la table où il n'y avait personne, celle qu'on lui réservait. Il n'oubliera jamais ces longues secondes à traverser toute la salle, voir les dos se tourner. Mais jamais un mauvais geste, jamais un croche-patte, ça aussi il ne l'oublierait jamais. Et si parfois il avait un doute, alors il se souvenait que toute sa vie jusque-là, il s'était cogné contre un plafond de verre. Que sa nouvelle personnalité, dure comme la pierre, fasse exploser ce plafond, qu'il se retrouve projeté haut, très haut, beaucoup plus haut que ce plafond. C'était normal, vu toute la force, toute l'énergie qu'il mettait depuis tant d'années à se fracasser la tête contre ce plafond de verre. Ce n'était que justice. Aujourd'hui, sous la force de sa volonté, de sa ténacité, et sous la dureté de la pierre qui était maintenant sa personnalité, le plafond de verre avait explosé, et forcément, avec l'inertie, il montait très haut, très vite. Bien sûr, le Loon jovial, social, bienveillant, avait été réduit en miettes dans ce choc. Mais l'autre, celui qui avait réussi à traverser le plafond de verre, avait récupéré ses restes pour les mettre dans un petit bocal pour plus tard. Et quand vraiment les temps étaient trop durs, il posait son oreille sur ce bocal, secouait un peu et écoutait la petite voix intérieure qui lui permettrait, dans quelques mois, de reconstruire sa première personnalité. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir.